Bon, décortiquons tout ça. Souvent, quand on s'intéresse à l'économie d'un pays, on a ce réflexe de chercher les trucs un peu brillants, très modernes.
Oui, les choses qui font la une des journaux.
Voilà, on cherche les levées de fonds spectaculaires des startups, les grandes avancées de l'intelligence artificielle, les énormes investissements des multinationales.
C'est ce qui capte l'attention, c'est sûr.
C'est ça. Mais en réalité, si on ajuste un peu notre regard pour voir la vraie ossature, bah ce qui fait vraiment tenir le corps économique debout au quotidien, c'est une toute autre histoire.
Une histoire beaucoup moins médiatisée.
Exactement. Et c'est pour ça que notre exploration en profondeur d'aujourd'hui se penche sur une source vraiment captivante. Il s'agit d'un dossier spécial très fouillé du magazine EcoBusiness.
Un dossier qui a été publié par l'OGM Média le 20 juillet 2026, si je ne me trompe pas.
C'est bien ça. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de mettre en lumière ce véritable moteur de l'économie marocain, un moteur qui est surpuissant, mais qui opère presque dans l'ombre.
Le capitalisme familial.
Le capitalisme familial, ouais. Et le paradoxe est assez fou. Le débat public est complètement obnubilé par l'innovation, alors que la réalité économique repose sur des pères, des mères, des frères et des sœurs qui gèrent des entreprises traditionnelles.
Et c'est un modèle qui fait face à une véritable bombe à retardement démographique, hein, une menace qui pourrait faire vaciller des millions d'emplois.
C'est ça qui est effrayant. Mais avant de parler de cette menace, je crois qu'il faut casser une image d'Épinal.
Ah oui, le fameux cliché. Parce que quand on dit entreprise familiale, la plupart des gens imaginent tout de suite la petite épicerie du coin.
Ouais, ou l'atelier artisanal du grand-père, ce genre de choses.
Exactement. Or, la réalité étudiée dans ce dossier est d'une toute autre ampleur. La démonstration s'appuie sur la première étude nationale d'envergure sur le sujet.
Une étude menée par l'Institut de l'entreprise familiale Maroc, c'est bien ça?
Oui, en collaboration avec l'IFC. L'IFC, c'est la Société financière internationale, donc la branche de la Banque mondiale dédiée au secteur privé.
Ah oui, donc c'est du lourd. C'est pas juste un petit sondage en ligne.
Pas du tout. Cette caution institutionnelle donne un poids énorme à leurs conclusions. Et l'étude pose un critère de base très important. Une entreprise familiale, ça ne se définit pas par sa petite taille.
D'accord. Donc c'est quoi le critère alors?
C'est la nature de son contrôle stratégique. On parle d'entreprise familiale à partir du moment où une même famille détient au moins la moitié des sièges au conseil d'administration.
Ok, donc c'est vraiment une question de pouvoir de décision.
C'est ça, c'est celui qui détient le pouvoir ultime. Et c'est cette lentille du pouvoir, et non pas le chiffre d'affaires, qui transforme complètement notre lecture de l'économie.
Et franchement, les chiffres du dossier donnent le vertige. On apprend que 92,9% des entreprises actives au Maroc entrent dans cette catégorie.
Près de 93%. C'est juste colossal.
C'est la quasi-totalité du tissu entrepreneurial du pays.
Et ça génère 65% de l'emploi privé.
Ce qui représente environ 6,3 millions de postes de travail, hein. 6,3 millions, oui. Et pour couronner le tout, elle pèse pour plus de 60,5% de la valeur ajoutée nationale. Moi, l'image qui m'est venue en lisant ça, c'est celle d'un iceberg géant.
Une très bonne image, oui.
Parce que quand on regarde la surface de l'océan économique, la partie visible, ce sont les grands groupes, la bourse, les filiales étrangères.
Mais la fondation sous-marine, celle qui empêche littéralement l'économie de couler, c'est ça.
Voilà, ce sont ces dizaines de milliers de PME familiales. Le texte précise d'ailleurs que 3 sur 4 restent des très petites, petites ou moyennes entreprises, réparties vraiment partout.
Et cette répartition géographique, c'est un point crucial pour la stabilité du pays.
Ah oui, pourquoi ça?
Bah, réfléchissez à la logique des multinationales ou des grands fonds d'investissement. Eux, ils ont une logique de concentration. Ils vont s'installer dans les grandes métropoles financières ou près des ports.
Ouais, dans les zones franches, là où c'est hyper optimisé.
Exactement. L'entreprise familiale, à l'inverse, elle a une logique d'ancrage. Elle naît souvent là où le fondateur a grandi. Donc, on les trouve dans des villes moyennes, des communes rurales.
Parfois au fin fond d'une vallée.
C'est ça. Et elles irriguent un écosystème local qui devient hyper dépendant d'elles. Imaginez une usine agroalimentaire familiale dans une région agricole.
Elle emploie pas mal de monde du coin, j'imagine.
Elle emploie 500 personnes, disons. Mais elle fait aussi vivre les agriculteurs qui la fournissent, les transporteurs de la région.
Même le petit café en face de l'usine où les employés vont déjeuner.
Exactement. Si cette seule usine ferme parce qu'elle est mal gérée par les héritiers, c'est une réaction en chaîne dévastatrice pour toute une microéconomie.
Donc la santé de ces familles, en fait, c'est la santé macroéconomique du pays.
Absolument. Et cet ancrage explique en grande partie leur mode de gestion très particulier, surtout face aux crises, ce qu'on appelle souvent leur fameuse résilience.
Ouais, le dossier s'attarde beaucoup là-dessus. Il souligne comment elles ont survécu à la pandémie, à l'inflation mondiale, aux sécheresses. Mais qu'est-ce qui change concrètement dans leur prise de décision alors ?
La grande différence, c'est l'horizon temporel. Les économistes appellent ça le capital patient.
Le capital patient, ok. C'est-à-dire ?
Prenez une entreprise cotée en bourse, détenue par des fonds de pension étrangers. Son obsession, c'est le rapport trimestriel.
Le chiffre de la fin du mois.
Voilà. En cas de crise soudaine, la logique mathématique exige de couper les coûts tout de suite pour sauver les dividendes. On gèle les embauches, on licencie.
C'est froid, c'est mécanique.
Mais la famille propriétaire, elle raisonne sur des décennies, parfois sur des générations. Le nom de la famille est littéralement écrit sur la façade de l'usine.
Ah oui, l'honneur, la réputation dans la ville, tout ça joue.
Énormément. Ils sont capables d'absorber le choc en réduisant drastiquement leur marge à court terme ou même en acceptant de ne verser aucun dividende pendant plusieurs années.
Juste pour protéger l'outil de travail.
Oui, et pour éviter de licencier des gens qui parfois travaillent pour la famille depuis 30 ans. Le deuxième levier de cette résilience, c'est l'agilité décisionnelle.
Parce qu'ils n'ont pas besoin de consulter 1000 personnes.
C'est ça. Pas d'assemblée générale extraordinaire avec des actionnaires aux quatre coins du monde. Un changement de stratégie, l'ouverture d'une ligne de crédit, ça peut se décider un dimanche après-midi.
Autour d'un thé dans le salon familial, quoi.
Exactement. C'est hyper rapide.
C'est là que ça devient vraiment fascinant. Mais et là, je dois faire l'avocat du diable parce que le dossier soulève un point qui m'a interpellé.
Je vous écoute.
Le texte indique que ces entreprises génèrent plus de revenus par unité de coût salarial.
Oui, c'est présenté comme un chiffre de performance.
Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment de la productivité technologique ? Est-ce qu'ils ont de meilleures machines ? Ou est-ce que, et c'est une vraie question, c'est juste un euphémisme poli pour dire qu'ils payent très mal leurs employés ?
C'est la grande question du paternalisme.
Parce que sous couvert d'être une grande famille protectrice, le dossier rappelle quand même qu'il y avait 1,19 million de personnes en situation de sous-emploi au Maroc en 2025.
C'est vrai. Et le dossier d'Ecobusiness ne cache pas cette réalité. Le paternalisme, c'est vraiment une pièce avec deux faces.
Donc d'un côté, le bouclier social pendant les crises.
Mais de l'autre, le prix de cette protection, c'est souvent une stagnation pour les employés. Les salaires d'entrée ou de milieu de carrière sont souvent plus bas que dans les multinationales.
C'est le fameux « on paye mal, mais on est une famille ».
Oui, et il y a pire. Le plafond de verre y est extrêmement bas. Les postes de direction sont très souvent réservés aux membres de la famille.
Peu importe leurs compétences réelles.
Exactement. Et la formation continue est parfois vue comme une dépense inutile. C'est ça le paradoxe du paternalisme familial. C'est rassurant en temps de crise, mais ça devient très archaïque et étouffant quand il faut croître.
Ça tue la méritocratie, en fait.
Totalement. Et cette hyperconcentration du pouvoir autour du patriarche ou de la matriarche, c'est ce qui nous amène au grand point de bascule.
La fameuse bombe à retardement dont on parlait au début.
Voilà. Ce qui sauve l'entreprise aujourd'hui risque de la tuer demain, quand ce leader vieillit.
La succession, le passage de témoins.
Et là, les statistiques du dossier font froid dans le dos.
J'ai noté les chiffres, c'est ce qu'ils appellent la malédiction des trois générations. Seulement 31% des entreprises familiales survivent au passage à la deuxième génération.
Et déjà, perdre près de 70% des boîtes à ce stade, c'est lourd.
Mais c'est pire après. Pour le passage à la troisième génération, le taux de survie s'effondre à 5%. 5%. C'est une hécatombe absolue.
Comment un modèle si résilient face aux crises mondiales peut-il s'effondrer juste parce qu'on change de patron ?
Bah oui, pourquoi ?
Le phénomène porte un nom, le paradoxe des fondateurs. Il faut comprendre la psychologie de la première génération. Imaginez le type qui a monté son usine à partir de rien dans les années 80.
Il a pris des risques de fou, il a hypothéqué sa maison.
C'est ça. Il a travaillé jour et nuit. Il a dû tout centraliser. Il connaît chaque machine, chaque fournisseur, même le prénom du gardien.
Il a tout dans la tête.
Voilà. Son instinct et cette centralisation ont fait le succès de la boîte. Mais le drame, c'est que les qualités d'un grand fondateur font de lui un très mauvais transmetteur.
Parce qu'il ne sait pas déléguer.
Transmettre, ça veut dire institutionnaliser. Ça veut dire écrire des processus, faire confiance à des méthodes plutôt qu'à son instinct. Et surtout, pour eux, l'entreprise n'est pas juste un actif financier.
C'est un peu leur bébé.
C'est le prolongement de leur identité. Lâcher les rênes, même à leurs propres enfants, c'est psychologiquement accepter leur propre fin.
Le texte a une expression géniale pour illustrer cette résistance. C'est le successeur fantôme.
Ah oui, c'est très parlant.
J'ai une image très claire en lisant ça. C'est comme un père qui offre une belle voiture à son gosse pour son permis. Il lui donne les clés et lui dit « Vas-y, c'est toi qui conduis maintenant ».
Mais avec un petit détail caché.
Un énorme détail. Le gosse a le volant Il a la carte de visite de directeur général, mais le père est assis sur le siège passager avec un jeu de double pédale, comme dans une auto-école.
C'est exactement ça.
Dès que le jeune veut accélérer pour digitaliser un truc ou tourner pour exporter, boum, le père appuie sur le frein depuis le siège passager. Le jeune a le titre, mais il ne peut signer aucun gros chèque.
Et cette image de la voiture à double commande, ça explique parfaitement la paralysie interne. En interne, c'est le chaos. Les vieux cadres ne savent plus qui écouter.
Ah oui, ils vont voir qui ? Le jeune directeur ou le fondateur à la retraite ?
Souvent, ils contournent le jeune pour aller demander l'approbation officieuse du fondateur. Et en externe, c'est pire. Les banques et les gros fournisseurs sentent l'embrouille très vite.
Ils se disent qui est vraiment aux commandes ici.
Voilà. Et le successeur, traité comme un enfant, finit par se désintéresser ou perdre toute autorité.
C'est triste, mais je me demandais, est-ce que c'est uniquement la faute de ces vieux fondateurs têtus ? Le dossier souligne que les enfants eux-mêmes ont changé, non ?
Totalement. L'autre côté de la table a subi une mutation profonde. Avant, reprendre l'affaire de famille, c'était un devoir sacré. On ne posait pas de questions.
On y allait par loyauté.
Aujourd'hui, la sociologie des héritiers n'a plus rien à voir. La deuxième ou troisième génération a souvent étudié à l'étranger, les grandes écoles de commerce en Europe, en Amérique.
Ils reviennent avec des masters, ils ont bossé dans des start-up.
Ils ont découvert le télétravail, l'IA, l'équilibre entre vie pro et vie perso. Alors l'idée de revenir s'enfermer 70 heures par semaine dans l'usine de BTP familiale juste par loyauté...
Ça les fait fuir.
Ça leur paraît impensable. Et le fondateur prend ce refus, ou même juste cette envie de travailler différemment, comme une trahison personnelle.
J'ai bâti ça pour toi et tu craches dessus, ce genre de réaction.
Exactement. Et forcer un enfant qui n'a ni l'envie ni les compétences à prendre la direction par culpabilité, c'est signer l'arrêt de mort de l'entreprise.
Surtout que si la transition vers la deuxième génération est dure, le dossier dit que le passage à la troisième, donc les cousins, c'est carrément la guerre des tranchées.
Ah, les fameuses guerres silencieuses.
Oui, ce dilemme insoluble entre l'égalité et l'équité. Comment ça se passe concrètement quand on arrive au niveau des cousins ?
C'est vraiment le nœud gordien de l'entreprise familiale. À la deuxième génération, ce sont des frères et sœurs. Ils ont grandi sous le même toit.
Ils ont le même père ou la même mère pour trancher.
Mais à la troisième génération, le capital est éparpillé entre plein de cousins. Des cousins qui, souvent, se voient juste au mariage ou aux enterrements.
Ils ne se connaissent même pas vraiment.
Et c'est là que l'égalité mathématique heurte l'équité morale. Imaginez une entreprise à 5 cousins actionnaires à parts égales, 20% chacun. C'est l'égalité du droit des successions.
Ok, très bien.
Sauf qu'il n'y a qu'un seul de ses cousins qui bosse vraiment dans l'usine à Casablanca. C'est lui qui gère le stress, les grèves, l'inflation.
Et ils étendent juste le chèque à la fin de l'année.
Voilà. Lors du conseil d'administration, le conflit est inévitable. Le cousin qui dirige veut réinvestir les bénéfices pour moderniser l'usine, au nom de son travail et de l'équité.
Et les autres veulent l'argent ?
Ring de boxe pour la famille. Que deviennent les talents extérieurs, les directeurs non familiaux ?
Ils fuient. La fuite des cerveaux est immédiate.
Ils partent à la concurrence.
Évidemment. Imaginez une directrice financière brillante. Elle voit les luttes intestines. Elle voit que le poste de DG ira de toute façon au neveu incompétent du fondateur.
Le fameux plafond de verre dont on parlait.
Elle n'a aucune raison de rester. L'entreprise perd ses meilleurs éléments au moment exact où elle a le plus besoin de gens rationnels pour gérer la succession.
Le tableau est super sombre, hein, franchement. Heureusement, le dossier d'éco-business ne fait pas que l'autopsie du problème. Il propose une vraie solution.
Oui, une solution vitale, mais qui demande une discipline de fer.
L'institutionnalisation de la gouvernance. C'est un grand mot. Mais comment on fait pour imposer des règles froides et bureaucratiques à une famille marocaine où tout est basé sur les émotions et le sang-jean ?
Le constat de base, il est rude. L'amour familial, le respect des aînés, c'est très beau. Mais ça ne suffit pas pour gérer des centaines de millions de dirhams et des milliers d'emplois.
C'est clair.
L'institutionnalisation, ça veut dire créer des frontières étanches entre trois rôles qui sont toujours mélangés. La famille, l'actionnariat et la direction.
Donc séparer les casquettes.
Oui. On peut être de la famille sans avoir de part. On peut avoir des parts sans diriger. Et on peut diriger sans être de la famille.
Et ça se met en place comment ? Le dossier parle de certains outils spécifiques.
Il y a d'abord la charte familiale. C'est un document qu'on négocie à froid, quand tout va bien.
Avant que les embrouilles ne commencent.
Exactement. Elle fixe des règles claires. Par exemple, aucun membre de la famille ne sera embauché s'il n'a pas un bac plus 5 et fait ses preuves pendant 5 ans ailleurs.
Ah, fini le piston automatique pour le petit dernier.
Voilà. Et ensuite, il y a le pacte d'actionnaires qui codifie mathématiquement la distribution des dividendes ou comment un cousin peut revendre ses parts sans couler la boîte.
Sur le papier, c'est génial, mais soyons réalistes. Comment vous dites à un patriarche très influent qu'il ne peut pas embaucher son fils parce qu'une charte l'interdit? Qui a le pouvoir de faire respecter ça?
C'est là qu'interviennent les administrateurs indépendants.
Oui, j'ai vu ça. Mais comment ils survivent, ces gens-là, au milieu des drames familiaux?
En fait, c'est toute la subtilité de la gouvernance. L'administrateur indépendant n'est ni un parent, ni un employé. C'est un pro externe. Et son rôle principal, c'est d'être le paratonnerre émotionnel.
Le paratonnerre? C'est-à-dire qu'il prend la foudre à la place des autres.
Exactement. Souvent, le patriarche malin veut cet administrateur. Parce que si le neveu nul demande un poste, ce n'est pas l'oncle qui doit dire non et gâcher le repas de famille du dimanche.
Ah, c'est l'administrateur externe qui dit non en s'appuyant froidement sur la fameuse charte.
C'est ça. L'expert externe absorbe toute l'impopularité. Il arbitre sans aucun biais affectif pour protéger l'institution.
C'est d'une ironie incroyable. Pour qu'une entreprise reste familiale, pour qu'elle survive sur plusieurs générations, elle doit se comporter de moins en moins comme une famille à table et de plus en plus comme une corporation froide.
La survie de la chaleur familiale dépend de la froideur de la gouvernance. Rédiger ses règles des années à l'avance, c'est la seule assurance vie qui marche.
Parce qu'au final, la survie du petit fournisseur local ou l'emploi de l'ouvrière sur la chaîne de montage, tout ça dépend de la capacité de cette famille à réguler ses propres jalousies avec des avocats.
C'est l'essence même du problème.
En tout cas, ce voyage au cœur du dossier d'éco-business change complètement notre regard. Derrière les grandes annonces, le vrai pouls du capitalisme marocain, ce sont ses familles.
Leurs drames privés sont en réalité des enjeux macroéconomiques gigantesques.
Voilà. L'incapacité d'un père à lâcher prise ou une embrouille entre cousins, ça peut faire trembler toute une région.
Et ça soulève une dernière réflexion, qui va d'ailleurs un peu plus loin que le texte.
Allez-y.
Sachant que 6,3 millions d'emplois dépendent de ces successions privées, la nature même de ces affaires change. Imaginez une famille qui possède un groupe agroalimentaire vital pour la région. Le fondateur meurt, les héritiers se détestent, refusent tout compromis.
Le scénario catastrophe classique.
Ils préfèrent liquider la boîte, licencier 5000 personnes ou vendre à un fonds étranger prédateur juste pour faire enrager l'autre branche de la famille.
C'est du sabotage industriel pour des rancunes personnelles en fait.
La question est donc, face à un tel risque systémique, est-ce que la succession familiale reste une affaire strictement privée? Ou bien est-ce que l'État devrait intervenir?
Intervenir dans une entreprise privée?
Pour des raisons de sécurité nationale économique, oui. On pourrait imaginer des incitations fiscales liées à la mise en place d'une gouvernance certifiée, ou même une médiation obligatoire imposée par l'État avant d'autoriser la liquidation d'une entreprise systémique.
Ah oui, la frontière entre la liberté de la propriété privée et l'urgence de protéger l'économie nationale devient superflue d'un coup.
C'est un vrai débat de société pour les années à venir.
C'est une perspective vraiment troublante pour terminer. Jusqu'où s'étend la responsabilité du capital familial? On laisse ça à la réflexion de ceux qui nous écoutent. La prochaine fois qu'on passera devant l'enseigne d'une PME locale ou les camions d'une usine du quartier, ce sera plus la même chose.
Ce n'est jamais juste une usine.
Exactement. Sous la surface, il y a cette machinerie humaine complexe, faite de secrets de famille, de chartes, de compromis, qui fait tourner le pays en silence. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.